Alors, en fait, ça résulte d'un programme de recherche européen auquel je participais, voilà, où j'ai commencé à développer en fait ce travail dans ce cadre-là, donc qui concerne les post-mémoires. Donc, c'est tiré de recherches de Marianne Hirsch, qui donc est une chercheuse américaine, qui est née à Timișoara et en fait donc qui porte cette mémoire en fait aussi de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça a été véhiculé chez elle, en fait, sans aussi pouvoir aller jamais sur les lieux où elle était née. Et donc, c'est à travers le support, notamment de photographie, qu'elle a commencé à travailler. D'un point de vue, on va dire, personnel, d'ego histoire, en quelque sorte, hein. Donc, vous voyez, avec, par exemple, ce livre sur Family Frames, Photography, Narrative and Post-Memory, qui date de 97, mais ce qui l'a amené en fait à développer le concept de post-mémoire, c'est-à-dire d'une mémoire véhiculée par des personnes qui n'ont pas vécu directement les événements. Donc comment ça se transmet en fait de génération en génération. En fait, c'est justement en fait ce qui lui a donné l'idée, c'est avec une bande dessinée que vous connaissez, j'imagine bien, Maus d'Art Spiegelman, qui est le monument, prix Pulitzer aussi, et qui justement met vraiment en perspective, en abîme, justement cette étude de la mémoire, à travers à la fois le parcours de son père en particulier, de ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale, donc que l'on suit, qui sont représentés donc sous la forme de petites souris, qui sont poursuivis par les nazis, donc représentés sous la forme de chats, comme vous pouvez le voir sur les images, mais voilà, j'imagine que je suis en terrain inconnu pour beaucoup d'entre vous. Et en même temps, donc, comment l'histoire se construit par Art Spiegelman lui-même, qui interroge son père au cours des années 80. Et donc, c'est toute cette mise en abîme là qui vraiment a fait que la chercheuse en fait se mette justement dans cette disposition d'esprit-là, de savoir justement comment pouvaient être véhiculées donc les histoires et les mémoires. En fait, la première bande dessinée sur la guerre d'Algérie qui sort, donc elle date du début des années 80. Donc c'est bien tardif, si vous voulez, par rapport à la fin du conflit. Elle s'appelle Une éducation algérienne là pour le coup c'est pas de la post-mémoire, c'est de la mémoire en tant que telle. Pour certains dessinateurs en fait c'est né avec la guerre d'Algérie. En particulier ce sont les dessinateurs que vous connaissez bien aussi, Cabu, Wolinski, voilà pour un deux et un troisième Ciné. Alors Cabu et Wolinski, en fait, donc Cabu en a tiré quelques images de son parcours pendant la guerre d'Algérie, mais vraiment de manière mémorielle. Il les a redessinés bien plus tard. Lui, petit troufion dans l'Algérie en guerre, qui en a retiré à ce moment-là une forme justement d'antimilitarisme qu'il a redessiné à partir des années 60, très rapidement, et notamment avec le fameux lieutenant Cronenbourg. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous montrer les images, mais voilà, c'est quelque chose qui va vraiment le guider dans toute cette période-là. Et il en est de même de Wolinski. Wolinski, donc, lui, était appelé du contingent à la fin du conflit, notamment près, en fait, des essais nucléaires. Voilà, alors, c'est pas, là, c'est moins direct, parce qu'il n'en a pas vraiment tiré d'image, en tout cas à ma connaissance. Mais c'est vraiment à son retour en fait qu'il commence à intégrer la rédaction d'Harakiri, de la revue Harakiri. Ils se retrouvent là à ce moment-là et ensemble en fait ils vont commencer à dessiner. Puis après évidemment ce sera toute la période Charlie Hebdo. Voilà. Et le troisième, Ciné, lui va rejoindre Charlie Hebdo plus tard, comme vous le savez aussi j'imagine. Mais lui en fait était déjà en train de dessiner. Notamment dans l'Express, des dessins donc, qui étaient anticolonialistes et véritablement contre la guerre d'Algérie en tant que telle aussi. Il en a retiré dès la fin de la guerre aussi. Il a participé à d'autres revues qui sont notamment Révolution africaine, le journal Révolution africaine, et Révolution tout court également. Voilà, qu'il a créé. Voilà, donc il faut attendre Un peu plus tard, donc pour équiper la bande dessinée, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces dessinateurs-là, en fait, ont également fait partie de revues qui se sont créées au cours des années 60, voilà, qui est la revue Pilote, et donc c'est là aussi un foyer, si vous voulez, en tant que tel, comment dire, de naissance, en quelque sorte, vraiment, et de développement de la bande dessinée. Autour bah, de grands noms comme René Goscinny et Albert Uderzo notamment. Voilà pour une première chose. Alors, en fait, au fur et à mesure, depuis le début des années 80, le nombre de bandes dessinées sur l'Algérie a vraiment augmenté au fur et à mesure. Sur la dernière période, c'est pas complet, ça demanderait à être un tout petit peu complété. Donc, grosso modo, vous voyez, on est vraiment sur une pente ascendante. Voilà ce que l'on pourrait dire là-dessus. Alors, sur les sujets en tant que tels qui sont développés, c'est pas très très bien catégorisé, hein, mais vraiment, en grande majorité, c'est vraiment sur l'histoire de la guerre. Il y en a pas mal également sur l'histoire coloniale. On parlait d'Abdelkader, par exemple, tout à l'heure, ça en fait partie. On a des éléments aussi qui sont plutôt sur l'Algérie postcoloniale, l'immigration par exemple, ou bien alors vraiment sur le sujet de la post-mémoire en tant que telle par exemple. Alors, au niveau du genre des auteurs, on est sur une grande majorité des auteurs hommes, très peu de femmes, voilà, bon, et pour les nationalités, on a une grande majorité en fait d'auteurs qui sont français ou franco-algériens, j'ai quand même mis la distinction. Voilà, autrement, alors justement sur les autres nationalités, alors nationalité algérienne, en particulier à Nawel Louérade, qui a fait une bande dessinée qui est assez intéressante avec Benoît Guillaume, donc en lien avec le MUCEM à Marseille. Et en fait, ils ont fait une double, c'est-à-dire dans le cadre d'un échange entre Algérie et, enfin, entre Alger et Marseille, où justement, donc, Nawel Louérade a dessiné Marseille et où Benoît Guillaume a dessiné, lui, Alger. Et justement, c'est intéressant sur cette question de la post-mémoire parce que comment les lieux, en fait, des deux villes portent encore, justement, toute cette mémoire coloniale en tant que telle, avec des fantômes en quelque sorte qui sont dans les lieux en tant que telle. Pour la nationalité belge, il y a en particulier Philippe Richel, donc qui a participé en fait à toute une série Les Mystères de la Troisième République, mais là il n'est pas question de la guerre d'Algérie en tant que telle, hein, mais donc pour Les Mystères de la Quatrième République, le dernier tome, donc c'est en 5 tomes, le dernier concerne la guerre d'Algérie. Et les mystères de la Ve République, eux, concernent plus la guerre d'Algérie en tant que telle sur plusieurs albums. Néanmoins, il y a des erreurs factuelles importantes dedans quand il concerne la guerre d'Algérie. C'est toujours sur un prisme un peu policier, si vous voulez, hein. Alors, par exemple, on trouve quelque chose qui est complètement une erreur, qui est complètement éculée en France maintenant, c'est à savoir comment dire, la distinction entre le 17 octobre 61 et puis le 8 février 62 à Charonne, par exemple. Donc lui, il mélange les deux événements qui n'ont évidemment strictement rien à voir. De ce point de vue-là, c'est une erreur, on va dire, un peu dérangeante, quoi. Il y a quand même quelques erreurs comme ça. Pour la nationalité espagnole, il y a en particulier donc le dessinateur Paco Salès. Il y a un autre dessinateur également qui a participé à une bande dessinée que j'ai pas marquée ici, qui a eu pas mal de succès, qui est Un maillot pour l'Algérie, dont le dessinateur donc est espagnol également. Là, même chose, c'est le dessinateur qui est espagnol. Autrement, en fait, on a des scénaristes qui sont français. Pour Un maillot sur l'Algérie, c'est le dessinateur Chris. Et ici, c'est Alain Bonnet. Et donc, en fait, c'est un pied noir qui, lui, n'est pas parti en France métropolitaine à son départ. Lui, en fait, il est parti justement s'installer et vivre en Espagne. Et ici, ça raconte en fait une histoire à hauteur d'enfant, donc avec justement des enfants qui viennent de différentes origines, qui appartiennent donc de mémoire à un juif d'Algérie, donc un pied noir et un Algérien, et donc ils se côtoient ensemble, et avant de, au cours de cette période-là, évidemment, de la guerre, toute l'éruption de la guerre qui se passe à ce moment-là. On va dire assez classique, finalement, comme sujet aussi en tant que tel, mais qui n'est pas inintéressante, loin s'en faut. On a une bande dessinée qui est de science-fiction et qui concerne la guerre d'Algérie, avec un grand spécialiste du genre qui est Léo Pilipovitch, qui a fait beaucoup de bandes dessinées qui mélangent en fait la question coloniale, notamment par exemple sur le Kenya, ou dans d'autres périodes historiques, et en fait des éléments de science-fiction. Ici, c'est le dernier tome d'une série qui s'intitule Le Grand Jeu, et c'est une des bandes dessinées assez rares, avec un maillot pour l'Algérie aussi, qui concerne en fait un maillot pour l'Algérie, le football, hein, dans la, et l'équipe de football du FLN. Donc pendant la guerre d'indépendance, qui est, donc, c'est un sujet en même temps assez intéressant, celle-là peut vraiment aussi intéresser les élèves en tant que tels, je pense. Et donc il commence d'ailleurs cette bande dessinée-là par traiter notamment du 8 mai 45. Et justement, c'est le cas également de cette bande dessinée-là, qui se passe justement en 1945 et où il est question des exécutions et même des fours dans lesquels les corps en fait, des Algériens qui ont été exécutés ont été brûlés. Et donc là, c'est, finalement, c'est une des rares évocations sur quelque chose qui est vraiment assez précis, justement, historiquement parlant. Mais bon, ça reste quand même marginal, en quelque sorte, hein, dans toute cette histoire. Alors, au niveau des auteurs, l'auteur qui a publié le plus, vraiment largement, c'est Jacques Ferrandez. Il y en a un deuxième qui en a publié plusieurs aussi sur le sujet, c'est Farid Boudjelal. Ce sont les deux auteurs les plus importants. Alors, on va commencer par Jacques Ferrandez. Lui est d'origine pied-noir. Il est né en 1955 à Alger, donc il a une mémoire hein, de ces événements-là, même s'il était petit enfant. Et donc, il a publié, en fait, plusieurs... Alors, on pourrait dire, dans sa mémoire qu'il porte, en fait, c'est une mémoire très camusienne. Et il est l'auteur de plusieurs adaptations que vous avez lues peut-être, j'espère en tout cas, ce sont de bons albums, sur l'hôte, l'étranger, et le dernier sur le premier homme, qui est même une véritable adaptation, puisqu'il a poursuivi en quelque sorte le livre d'Albert Camus. Vous avez une autre adaptation aussi, Alger la Noire, d'après donc un polar de Maurice Atia, qui se passe en fait à la fin de la guerre d'Algérie autour de 61-62 avec une histoire de meurtre et sur fond aussi d'action de l'OAS. Voilà, sa grande série, c'est évidemment Les Carnets d'Orient qui pour moi reste vraiment un modèle du genre. C'est vraiment, si vous aimez bien la bande dessinée, si vous voulez bien connaître l'histoire de l'Algérie aussi et puis sur fond on va dire romanesque, c'est vraiment une excellente bande dessinée avec un fil rouge qui court tout le long autour d'un tableau. Voilà. Donc là, elle peut se subdiviser en deux séries en fait de cinq tomes. Première série en haut, donc sur toute la période coloniale. En fait, pas toute, tout à fait, parce que ça commence dans les années 1840, si mes souvenirs sont bons, et donc qui va jusqu'en 1954 avec le cimetière des princesses. Là où vraiment, en fait, je pense qu'il prend toute sa dimension et que la bande dessinée prend toute son ampleur, c'est à partir du troisième volume, Les Fils du Sud. Et en fait, là, c'est un volume où, justement, Jacques Ferrandez a en quelque sorte mis sa patte aussi, parce qu'elle parle également de son grand-père. Et donc là, on commence à avoir notamment aussi l'insertion de documents propres. Et en fait, il commence à mettre des aquarelles qui vont prendre parfois des doubles pages et qui sont de très belles images en tant que telles. Et en plus de cela, évidemment, c'est servi par une histoire qui se tient complètement, qui est vraiment très, très bien. Dans la deuxième série, donc, qui n'est pas publiée à la suite, hein, donc il y a eu quelques moments, en fait, entre quelques années entre les deux moments, Vous avez en fait donc toute la série sur la guerre d'Algérie en tant que telle. Alors, à mon sens, qui fonctionne peut-être un tout petit peu moins bien, si je peux mettre un peu de critique, mais qui reprend tous les éléments en fait de la guerre d'Algérie. On sent à des moments une volonté de tout reprendre les événements, et donc finalement dans ces 5 volumes-là, et on sent que c'est un peu, peut-être un peu, voilà, ça, il essaye de tout mettre, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai pas de. Je pourrais vous faire une analyse précise en fait hein, des différents albums. Alors c'est dans une perspective camusienne aussi justement. Donc il y a notamment une page qui ressort pour moi justement autour de l'utilisation de la torture et en même temps parallèlement à ça, si vous voulez, d'une exécution par le FLN. Donc on est dans une sorte de balancier, si vous voulez, qui met la balance balle au centre. Il y a des exactions qui sont commises de chaque côté. Voilà, il y a cette volonté-là, si vous voulez, mais globalement parlant aussi avec le projet qui est derrière, si vous voulez, hein, de condamnation de la violence en général, justement dans une perspective toute camusienne. Je vous parle juste de Farid Boudjelal qui a fait en fait une très belle quadrilogie. J'en ai mis que trois ici, parce que le troisième volume ne concerne pas la guerre d'Algérie. Par contre, les trois autres ici concernent la guerre d'Algérie. Alors, avec donc c'est une perspective justement aussi, on va dire d'égo-histoire, hein, c'est ou d'autobiographie, si vous voulez, hein, en tant que telle, en partie. Voilà, c'est Farid Boudjelal, petit polio. Il est atteint de la poliomyélite en fait, voilà, lui il raconte dans le premier volume son enfance à Toulon en tant que telle voilà, mais sur fond de guerre d'Algérie. Donc il y a la guerre qui est présente, mais elle est donc vue du côté métropolitain, si vous voulez, hein. Le deuxième volume, Mémé d'Arménie, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très beau, puisque on est dans une sorte de généalogie, justement, qui remonte sur plusieurs générations, donc sa grand-mère en particulier, voilà, qui est ici. Et là, on voit vraiment des identités qui sont complexes. Farid Boudjelal, on pourrait dire un Algérien. Et en fait, sa grand-mère est arménienne. Il parle du génocide arménien aussi, justement, hein. L'émigration des Arméniens qui se sont réfugiés, pour le coup, en Algérie. Vous voyez une identité, finalement, que l'on pourrait penser être stable. Et en fait, non. On voit que les choses, justement, sont plus complexes que ça et plus mélangées. Donc, il y a ici. En fait, différents niveaux, si vous voulez, d'interprétation que l'on peut avoir. Enfin, donc le quatrième volume sur le cousin Harki. Ici, on est dans les années 70. Avec Farid Boudjelal aussi qui se fait soigner toujours, toujours soigné pour sa polio dans un centre. Avec justement un jeune qui arrive. Et là, on voit aussi cette mémoire de la guerre d'Algérie à travers un jeune d'origine algérienne qui est en fait un harki, un ancien harki, et qui est protégé par un officier. Et on voit un petit peu cette mémoire-là, en fait, qui arrive en filigrane, et avec, si vous voulez, tous les débats qu'il peut y avoir entre des jeunes, voilà, d'une vingtaine d'années, si vous voulez, à ce moment-là, et avec des perspectives aussi. Que peuvent avoir des jeunes de 20 ans, si vous voulez, les filles, la drogue aussi un petit peu, enfin bon, bref, on est la musique, etc., etc. Voilà pour cela. Alors, ce ne sont pas les seuls post-mémoires. J'en passerai sur certaines, en fait. Voilà, Daniel Blancou, par exemple, que je ne vais pas vous montrer ici, c'est sur la mémoire en fait des Harkis. C'est véritablement une bande dessinée que j'apprécie beaucoup, véritablement justement de post-mémoire, parce que Daniel Blancou parle de ses parents qui ont été instituteurs dans un camp de Harkis à Saint-Maurice-l'Ardoise. Alors Saint-Laurent-des-Arabes, c'est en fait un jeu de mots sur le nom du village à côté d'où était le camp, qui est Saint-Laurent-des-Arbres. Et donc le camp a aujourd'hui disparu, mais donc il parle en fait du parcours de ses parents au cours des années 70 dans les camps de harkis pour donner des cours en tant que tel, être instit auprès de ses enfants de harkis. Et en même temps, au moment où il va y avoir les révoltes des enfants de harkis dans les camps. Samuel Figuière, pardon, L'esprit à la dérive, c'est ici un enfant d'appelé du contingent qui parle de son père à un moment en fait où son père, donc ancien appelé, opposant à la guerre, commence à être atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour moi, c'est pas forcément. Je suis désolé de mettre des jugements de valeur, mais je suis pas non plus complètement convaincu par cette bande dessinée là. Ensuite, vous avez toujours pour les appelés du contingent, plutôt pardon, pour les militaires en tant que tels. Ici, de Claire Dallange et Marc Védrine. Salam Toubib. Où Claire Dallange parle de son père qui était militaire et médecin en fait au cours de la guerre. Voilà, alors ce qui va ressortir essentiellement beaucoup en fait, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait cette recherche, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages de post-mémoire autour plutôt des enfants de pieds noirs. Alors, tout à l'heure, je viens de vous montrer, il y a Morvan Diot d'Algérie, où il parle donc de sa famille et il fait un retour en Algérie au cours des années 80. Il y a un film d'ailleurs aussi autour de ça, d'une vingtaine de minutes. À partir des films de son père au cours des années 80, il montre en fait. Ce retour en Algérie, cette Algérie que son père a connue, et en fait où aussi son oncle vit toujours, puisque son oncle c'était un des moines de Tibérine. Et il y a en même temps cette évocation en quelque sorte, et son oncle donc est toujours resté vivre en Algérie, et donc ça parle aussi de cette période-là, si vous voulez, des années 80. Voilà, il parle pas du tout. Des années 90 hein, et de la mort de son père, mais c'est quelque chose qui, évidemment, est très marquant. Donc, il dessine aujourd'hui, il est à Rennes, pour lui. Et donc, ce que l'on peut voir beaucoup, en fait, ce qui est vraiment majoritaire, c'est vraiment les post-mémoires des Pieds Noirs. C'est eux qui occupent, pour moi, l'essentiel des bandes dessinées qui concernent justement ces post-mémoires en tant que telles. C'est eux qui se sont le plus investis dans ce support-là de la bande dessinée. Pour Johann Spahr, c'est un peu différent, puisque lui, c'est un juif d'Algérie. Vous connaissez, j'imagine, alors j'en ai mis 6 là, maintenant il est arrivé à 10 hein, volumes, donc où il évoque en fait l'Algérie, pas de la guerre, mais des années 30, et d'Alger des années 30 en tant que tel. Alors, même chose, il y a quelques erreurs factuelles dedans, mais c'est vraiment plus une évocation. Il n'y a pas véritablement un désir d'être historiquement juste, hein. Pas du tout. Par exemple, il imagine les janissaires dans les années 20, si vous voulez, les janissaires turcs dans les années 20 à Alger. Il n'y en a plus depuis, depuis 1830. Hein. Par exemple, pour cela. Mais voilà, il y a d'autres évocations. Dans les derniers albums, il cherche plus, en fait, à coller un peu plus à certains éléments, notamment, on va dire, socioculturels plus largement. Les auteurs qui ont parlé justement des post-mémoires également pieds noirs, il y a ce très bel album de Jeanne Puchol, qui est elle une pied noire qui est née en 1957. La différence, c'est qu'elle est arrivée avant la fin de la guerre, tout de suite, hein, je ne sais pas, pourtant j'ai interviewé, je suis désolé. Peut-être même à sa naissance, elle était déjà en France. Par contre, ses parents, en fait, ont très rapidement quitté l'Algérie en guerre. Et ses parents étaient ce qu'on appelle des pieds noirs libéraux, si vous voulez, hein, anticolonialistes. Et ses parents ont participé à la manifestation de Charonne. Elle parle des années 61-62 parce qu'elle, en fait, elle met même chose en abîme son histoire, où elle interroge ses parents sur leur vécu à la fin de la guerre. Et ce qu'ils ont fait. Voilà, ses parents, justement, ont participé à la manifestation et ont échappé, en fait, à la mort au cours de la manifestation du métro Charonne. Et elle parle aussi plus largement, si vous voulez, à la fois son entretien avec ses parents, les événements en tant que tels, et puis plus largement après. Elle part dans une évocation à la fois de la mythologie avec Charon et en fait aussi Charonne c'est aussi un village dans l'Algérie coloniale. Et donc vous avez toute cette multidimensionnalité si vous voulez, c'est un album en noir et blanc. Alors par contre c'est plus pour vous en tant que tel, pas pour les élèves parce que là je pense qu'on les perd là, hein, complètement. Mais c'est une véritable, très belle mise en abîme, philosophique aussi à tous les niveaux, à la fois historique et philosophique, on pourrait dire, sur l'Algérie. Je voudrais vous parler de quelques albums, en fait, qui m'ont paru tout à fait intéressants. Le premier, c'est un album de Tronchet et d'Anne Sibran, à partir d'un roman d'Anne Sibran. Tronchet a mis en image deux très beaux romans d'Anne Sibran. Celui-là est autobiographique, il raconte l'enfance d'Anne Sibran. Son père était agent d'assurance à Alger. Voilà un très bel album. J'ai pas lu le roman, je confesse, désolé. Je peux pas faire vraiment la distinction entre les deux, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'album est très beau. Et le deuxième également album qu'il a fait avec elle, le deuxième est très beau, sombre également d'ailleurs. Le deuxième, c'est un album de Fred Neidhart, qui est également donc autobiographique, qui s'intitule Les Pieds Noirs à la mer. Et lui est né en 64 à Besançon. Lui raconte un peu la manière d'Art Spiegelman, avec justement des personnages qui sont sous l'apparence, on ne le voit pas, mais on le verra tout à l'heure, sous l'apparence d'animaux. À la différence d'Art Spiegelman, c'est que ça peut changer, en fait, au fur et à mesure aussi, au niveau de l'apparence. Mais certains personnages, on va dire, sont assez nettement marqués, comment dire, désignés, pardon, c'est pas par rapport à leurs origines, c'est plutôt par rapport à leur caractère. Voilà. Par exemple, son cousin que l'on va voir tout à l'heure a une tête de lion, parce que évidemment il est un peu flamboyant, on l'imagine comme ça en tout cas. Voilà, par exemple, pour cela. Et donc ça se passe à Marseille au début des années 80. Je reviendrai là-dessus si j'ai le temps. Vous me coupez à un moment donné. Hein, voilà. Hein. La troisième, c'est. Pardon, j'ai dit trois, en fait, c'est quatre. 5 minutes, ok. La quatrième, donc, c'est Petit-fils d'Algérie, de Joël Alessandra, qui, elle, donc là, c'est vraiment sur, non pas une génération, mais deux, et qui raconte, en fait, ses grands-parents qui étaient. Maçon et architecte à Constantine. Voilà, alors, la quatrième, c'est un ouvrage d'Olivia Burton et Maï Grand, L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique. Olivia Burton, donc, est d'origine pieds-noirs aussi, et même chose, c'est sur notamment sa grand-mère en tant que telle. Et la caractéristique, en fait, c'est que les deux dernières bandes dessinées sont sorties, en fait, en même temps, quasiment, et sur des sujets qui sont tout à fait similaires. Alors, toutes ces bandes dessinées ont quelques points communs. Le premier, c'est évidemment de parler de la guerre et de ses traumatismes. Par exemple, pour la bande dessinée de Tronchet et d'Anne Sibran. avec l'exécution d'un jeune Algérien que son père voilà, a été, dont il a été témoin juste devant lui, un enfant qui est exécuté par l'OAS à la fin de la guerre. Ça montre également pour cette bande dessinée-là une coexistence impossible. Vous voyez, à travers par exemple ces deux vignettes-là, où en fait on a à la fois qui reprend en fait le père qui part au travail le matin et qui rentre le soir, mais avec les inscriptions qui ont changé et qui montrent finalement que voilà, on voit une dualité, si vous voulez, ici qui est présente dans ces deux cases, qui montre donc voilà, c'est impossible de continuer à vivre ensemble. Le départ est évidemment beaucoup présenté. Soit ici de manière directe, où on voit son père en fait qui quitte l'appartement, qui ferme la porte, qui met la clé, qui jette la clé, vous voyez, de l'appartement. Ça, d'ailleurs, c'est aussi une évocation, par exemple, pour en matière de post-mémoire du livre de Benjamin Stora, Les clés retrouvées, où il parle de ces clés-là. C'est un objet marquant, évidemment, pour les pieds noirs. Jusqu'à au départ en bateau, et avec, en fait, vous voyez, au bas de cette page, la dernière vignette, justement, le couperet qui tombe, en quelque sorte. Hein. Non, monsieur, vous avez le droit à 20 kilos, donc c'est 20 kilos, c'est soit la valise, soit le chien. Et donc, bon, bah, en fait, il prend la valise. Voilà, par exemple, vous voyez, mais c'est les choix terribles qui doivent être faits pour lui à ce moment-là. Bon, je passe par exemple pour ces autres éléments. Ça, c'est sur les femmes françaises qui, à l'arrivée en fait du bateau, parfument les pieds noirs pour qu'ils, entre guillemets, sentent bon. Vous voyez, donc c'est le genre de violence symbolique extrêmement forte qui a pu être vécue. Fred Neddart le montre également en plein cœur avec ce fameux slogan qui donne évidemment le titre à son album, Les pieds noirs à la mer, et qui est voilà, qui est cette manifestation-là qu'il représente en fait, où il a une banderole avec indiqué Les pieds noirs à la mer. Et on voit également l'extrait de l'interview de Gaston Defferre, maire de Marseille à l'époque, ministre aussi, et qui dit que les pieds noirs aillent se réadapter ailleurs. Et donc, enfin, qui a été ministre, pardon, hein, il n'est plus à ce moment-là, mais... voilà, ces deux éléments, évidemment, qui sont d'une violence extrêmement forte et qui ont évidemment énormément marqué les pieds noirs, pardon, j'ai indiqué les pieds noirs, hein, je ne fais pas les distinguos, voilà, les Français d'Algérie, devrais-je dire, plus particulièrement, c'est important d'ailleurs, à leur arrivée. Et puis, la situation de déclassement social, je passe très rapidement, en fait, notamment pour le père d'Anne Sibran. En fait, il n'est pas du tout attendu. Il se retrouve placardisé complètement dans son entreprise. Et au bout du compte, si vous voulez, ça va être la violence et l'alcoolisme qui vont naître chez lui. Et donc, avec, on le devine chez Anne Sibran, une énorme difficulté d'un vécu, on va dire, très douloureux, voilà, qu'elle raconte très très bien. Voilà pour des éléments, notamment avec ces. Le code couleur, d'ailleurs, utilisé par Tronchet est important à un certain moment, moins pour la page de droite ici, hein, pour le coup, mais souvent on a des tons bleu, vert dans tous les éléments qui sont un peu évidemment douloureux. Une mémoire antigaulliste, on le voit à travers toutes les insultes qui peuvent être proférées à l'encontre de Gaulle, par exemple. Et le racisme qui naît, donc ça c'est particulièrement valable enfin qui vraiment monte au fur et à mesure au tournant des années 80, c'est particulièrement bien montré dans la bande dessinée de Fred Nadart, à travers sa grand-mère en fait qui va dans le quartier du Panier à Marseille, mais qui est très raciste, elle n'ose même pas dire les Arabes, elle dit les Américains. On va dans, il y a plein d'Américains maintenant dans ce quartier-là. Voyez. Et puis sa cousine qui écrit même à Jean-Marie Le Pen pour voilà parce que elle dit j'ai pas de travail voilà et donc Jean-Marie Le Pen lui répond et elle est fière de montrer la réponse de Jean-Marie Le Pen donc lui il s'occupe de nous hein, voilà c'est un petit peu le message qui est véhiculé qui est pas du tout repris hein, évidemment qui est avec une distance critique très forte pour Fresnes d'Arthes, mais qui, voilà, on voit en même temps, il essaie de dialoguer aussi avec sa sœur. Comment dire, cette mémoire coloniale aussi qui est reprise, et l'interrogation que justement ces jeunes-là, d'origine pied-noir, ont sur leur famille. Alors avec certains qui sont directement, ouvertement racistes et qui ont été du côté de l'OAS, on peut peut-être le deviner en tout cas, mais savoir est-ce que mes parents finalement étaient des gros colons, qu'est-ce qui se passait exactement. Et en même temps, voilà, à la fois le racisme et en même temps, ça montre une proximité très grande aussi avec, avec les Algériens. C'est le cas en particulier justement de cette grand-mère qui est à la fois raciste, mais qui va parler arabe en fait avec des Algériennes et qui boit le thé avec elles parce que en fait les makrouts sont excellents chez eux et donc on se côtoie, on est ensemble, mais il y a quand même du racisme. Vous voyez, donc c'est un peu ces contradictions là qui sont bien montrées, je trouve, dans cet album de Fresnes d'Arthes. Je peux vous complètement vous spoiler, comme on dit maintenant. La fin de l'histoire, mais c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là à voir, parce qu'il y a, on va dire, un rebondissement quelque part sur la fin. En plus, c'est sur fond d'affaires familiales, justement, d'un mariage mixte entre un cousin qui veut plus voir sa famille raciste, donc, et une jeune femme d'origine kabyle. Et les deux s'aiment, vivent ensemble, mais donc il y a des coupures familiales extrêmement fortes. Et donc, voilà, Fresnes d'Arthes va lui essayer d'intercéder pour rabibocher en quelque sorte la famille dans ce cadre-là. Voilà, on a beaucoup de nostalgie aussi, entre guillemets, que l'on peut voir. Voilà, le père qui est complètement désespéré, en fait, qui est complètement marginalisé en quelque sorte. Mais lui, en fait, le moment où il revit, c'est quand il évoque, quand il repense, en fait, à cet Alger perdu. Et donc, on voit, il y a quelques très belles pages. On voit ici, justement, à la fois, il est avec sa fille sur les bords de Seine, de manière totalement désespérée. Et tout d'un coup, en fait, elle lui invente une histoire. Il a besoin d'entendre ça, cette histoire et de son Alger qu'il racontait à son enfant quand elle était petite, avec Alger resplendissante, magnifique, la plage, etc., etc. Voilà. Et alors que la réalité est tout autre. Au bout du compte, j'arrive là, j'espère à peu près vers la fin, il y a quelque temps. Donc ce passage des générations, en fait, dont il est question aussi ici, à la fois Fresnes d'Arthes qui avec son grand-père et donc avec quelque chose qui ne peut pas se faire, cette transmission-là, le décès du grand-père. Il ne saura pas son histoire, il ne saura pas le fin mot de l'histoire, quelque part. Ou bien, voilà, ici, c'est la même chose pour la grand-mère d'Olivia Burton. Très bel album, hein, aussi, justement, cette quête-là, sur ce retour, en quelque sorte, sur sa terre et sur les traces de sa grand-mère. Et avec les différentes photographies ici que vous pouvez voir au fur et à mesure de ce temps passé. L'album, les deux albums sont construits sur une quête initiatique justement, celui d'Olivia Burton et celui de Joël Sandra, à savoir le retour de descendants en Algérie. Et donc ça raconte ce voyage-là du retour sur la terre de leurs ancêtres. Donc avec à la fois des opposants dans un style voilà très classique littéraire, si vous voulez, des opposants, notamment par exemple des amis qui vont leur dire « Non, non, surtout, n'allez pas là-bas, c'est bizarre, pourquoi tu vas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire, etc. etc. » Au contraire, des personnes qui vont être des adjuvants, qui vont vraiment aider à ça, et donc à travers deux personnages qui les accueillent, en fait, qui les prennent en charge là-bas et qui vont les guider en Algérie, donc Jafar et Lokman, et qui vont leur expliquer, dialoguer avec eux, avoir un œil critique, et puis favoriser en fait aussi les rencontres sur place. Voilà, donc on trouve ces deux éléments-là. Tout le travail sur les lieux de mémoire, en particulier les cimetières, je suis désolé, je passe assez vite, hein, les cimetières, essayer de retrouver en fait les traces dans les cimetières des tombes des ancêtres, et de la maison familiale. Voilà, retrouver la maison familiale et faire la rencontre en fait avec des personnes aussi qui y vivent. Et donc toujours des éléments de rencontre assez forts, avec parfois, donc ça pour ceux qui, c'est vraiment le cas typique des pieds noirs qui retournent aujourd'hui en Algérie, qui vont faire ces, retrouver évidemment leurs traces, et qui vont faire la rencontre, avec des éléments qui parfois sont dans l'accueil très fort, et puis parfois un petit peu dans la retenue aussi, parce qu'on se demande que viennent faire ces personnes-là. Il y a aussi l'histoire justement de la possibilité, de la volonté de récupération des biens dits vacants. Hein. Donc parfois, il y a des craintes qui se font, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc on voit ici à travers les images, le passé et le présent. Alors ici, c'est voilà, on joue sur les deux couleurs. Par exemple, pour Joël Alessandra, c'est aussi tous les lieux, les bâtiments que ses grands-parents ont construits, que sa famille a construits à Constantine. Et donc, il fait en fait un périple à Constantine avec tous les bâtiments qu'il a pu voir. Et donc, toujours également ces maisons familiales. Je ne vais pas vous dévoiler les fins. Olivia Burton, il y a aussi quelque chose encore qui est présent. Donc voilà, je ne vais pas faire ça. Voilà, il y a les faux souvenirs et la vraie mémoire. Donc tisser un lien entre les générations, ce qui est présent par exemple ici avec Olivia Burton. On la voit qui est en fait en train pensive dans son canapé ici. Et en même temps, il y a sa grand-mère, en quelque sorte, qui veille derrière elle. Et elle repense, évidemment, à toute cette histoire familiale. Et elle a tissé, en quelque sorte, ce lien entre les générations de manière extrêmement forte. Elle imagine, et voilà, en plus, elle trouve une carte postale de l'Algérie coloniale, en fait, où, quand elle zoome, en fait, elle tombe sur sa grand-mère. Vous voyez, donc c'est en plus, ça lui apparaît en zoomant sur son, vous voyez les petits plus là, sur son écran, en fait, elle tombe sur la photo de sa grand-mère présente sur cette image-là. Et donc, vous voyez, c'est à la fois cette insertion également entre, on a les dessins, pardon, en tant que tels, et puis l'insertion des documents qui montre un petit peu cette généalogie, si vous voulez, aussi entre les générations. Et donc, il y a aussi ce texte que j'ai trouvé très beau avec cette image-là, si vous voulez, de la famille réunie, et donc qui fait le lien en plus avec les enfants de Joël Alessandra. Depuis, Joël Alessandra retourne régulièrement en Algérie, donc le lien est vraiment retissé en quelque sorte avec l'Algérie. Pour Olivia Burton, je ne sais pas. Et donc, il écrit, alors c'est peut-être un peu petit, vous voyez sûrement mieux que moi. Donc, comment expliquer l'importance de cet esprit de famille qui aidera nos enfants à dépasser les épreuves, à s'adapter à l'évolution du monde. Je sais que leur transmettre tout cela les mènera à se construire et à grandir. Donc, il y a une volonté de lien. Alors, on peut évidemment aussi être d'accord ou pas là-dessus, mais une volonté de lien de cette transmission aussi encore à la génération suivante, si vous voulez. Et c'est aussi une volonté, je terminerai avec ça, hein, je crois que c'est ma dernière diapo, avec vous allez être libérés. Donc, tisser les liens entre l'Algérie et la France en tant que telle, entre l'Algérie et la France, et puis en France même, en quelque sorte. Hein. Et donc ça, c'est particulièrement valable pour encore cette bande dessinée d'Olivia Burton, où en fait, elle rentre dans le métro, en fait, et donc elle a différentes images, si vous voulez, une sorte de flash, en quelque sorte, où par exemple, ici, en haut, vous pouvez voir les deux grands-pères qui sont côte à côte, l'un et l'autre, et en fait, où elle les revoit jeunes, dans la même situation, si vous voulez, hein, évidemment, c'est transposé, où elle les revoit jeunes, mais en fait, comme ils étaient auparavant, à savoir un Algérien et un soldat. Finalement, de voir cette mémoire-là qui imprègne, en quelque sorte, tous les lieux que l'on peut vivre aujourd'hui, cette post-mémoire de la guerre d'Algérie est parmi nous, évidemment, quasiment, pas, je dirais pas dans tous les lieux, mais elle est véhiculée par nous en tant que telle, même si on n'a pas directement vécu les événements, et elle est véhiculée évidemment dans les différents lieux qui peuvent exister en France. Voilà, je vous remercie.